Il pleuvait fort
sur la grande route. Elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute. Le matin même à un ami,
courant alors
à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri en séchant l'eau de sa frimousse. D'un air très doux, elle m'a dit oui, oui.
Un petit coin de parapluie
contre un coin de paradis,
elle avait quelque chose d'un ange.
Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change par diplôme, ploum.
Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Boomerang 89.7 FM dans l'émission Un petit coin de paradis. Bonjour Laurent.
Bonjour Lydie.
Comment que ça va?
Mais ça va bien ici. Hein.
Nous avons un invité.
Qui est Richard. Bonjour Richard.
Richard. Bonjour Laurent.
A accepté notre invitation et on l'en remercie beaucoup.
Et il est accompagné de ses deux fils qui sont spectateurs, Sacha et Luca.
Ouais, merci d'être là.
Merci d'être venu.
On va commencer en musique avec Nicolas Daquin, qui chante Les Cons, excusez-moi pour le terme, et qui est accompagné par Christophe Gras au piano. Vous pouvez trouver ça sur Internet en écrivant SoundCloud, Christophe Gras et Nicolas Daquin.
Christophe Gras, c'était notre ami pianiste très talentueux qui malheureusement est mort.
On écoute ça.
Moi qui suis maladroit et gauche, suis-je de droite, suis-je de gauche? Mes idées jamais ne s'arrêtent, elles vont et viennent dans ma tête. Alors c'est que tu es de droite, me dit un gars rouge écarlate. Je ne suis pas révolutionnaire comme mon frère qui est fonctionnaire. J'ai pas d'instruction ni méthode, je ne suis pas Emmanuel Todd. Je donne pas des leçons à tout le monde. Le doute est ma nature profonde. Les cons, ça ose tout. Comme pourrait dire Michel Audiard, à la gauche de la gauche, y a aussi quelques beaux connards. Le bouffon est devenu roi, la dérision dicte sa loi. Super rebelle a dérapé, sur les doigts il s'est fait taper, se posant martyr des médias, inondant ces mêmes médias. Quand l'insécurité galope, à gauche, à droite, tout le monde dit stop. À l'extrême gauche, certains se gaussent, ils disent que ce n'est pas grand chose. Ils minimisent, ils banalisent. Ils disent la France se le pénise. Les cons, ça ose tout. Comme pourrait dire Michel Audiard, à la gauche de la gauche, y a aussi quelques beaux connards. La France est beauf, la France est rance, faut cultiver nos différences. Tu dis la burqa ou le voile, choque notre vision coloniale. Et que t'aimes les quartiers sensibles, justement parce qu'ils sont sensibles. De mon temps, les cons, c'était ça. Jean Coe, Jean Dutour, Michel Droit, ils étaient forcément de droite, quel plaisir de les mettre en boîte. Une minorité de chanteurs, les brocardés avec ardeur. Mais aujourd'hui y a comme un manque, ils sont tristes tous ces saltimbanques, à pencher du même côté, où sont les fers à les ferrer. Le pire c'est qu'ils s'en revendiquent, de la pensée, ils sont les flics. Les cons, ça ose tout. C'est à ça qu'on les reconnaît. Avec ma petite chanson, dire mon opinion, j'ai osé.
Et voilà, c'était Nicolas Daquin. Laurent, c'est à toi.
Eh bien, aujourd'hui, nous sommes donc avec Richard, qui, comme la totalité des invités que j'ai interviewés depuis 3 ans, est né à Mazamet, n'est-ce pas ?
Pas du tout.
C'est ce que donc, tous les invités répondent d'ailleurs.
Voilà, ils répondent tous la même chose.
C'est bien rodé alors.
Alors tu es né où, Richard ?
Alors je suis né à Melun.
À quoi ?
En Seine-et-Marne, à Melun.
À Melun, j'avais compris Menin. Donc tu es né à Melun, en Seine-et-Marne. C'est une ville réputée pour ses melons ?
Alors peut-être, ça je ne sais pas, mais je pense qu'elle est réputée, oui, parce qu'elle est dans le sketch de Las Palès.
On parle dans un sketch de Las Palès.
Ça ne doit pas être terrible, à mon avis. Enfin, c'est pas...
Non, on s'en moque beaucoup.
On s'en moque. Oh.
Je me rappelle d'un sketch, il me semble, de Fernand Reynaud, si ça te dit quelque chose, bien que tu sois plus jeune.
Fernand Reynaud, oui, le sketch, non.
Je crois que c'est lui, il parlait des melons de Melun.
Ah ouais. Oui.
Alors, il ne doit pas y en avoir, hein, parce que c'est quoi, dans la grande banlieue Cavaillès. Parisienne
hein? Les melons ou Melun?
Melun.
Melun, oui, c'est ça, c'est en Seine-et-Marne, c'est dans la région parisienne.
D'accord. Tu nais dans une famille avec un papa et une maman, des frères et sœurs, ou pas bien ou...
Alors oui, papa, maman, et je suis le premier-né, donc quand je suis arrivé, j'étais seul.
D'accord.
Et c'était bien.
Ouais. c'est ce que disent beaucoup de frères aînés. Ben, ah, oui. Un fils de Lydie dit, en parlant de son petit frère, ils ont 3 ans d'écart, il dit, mais moi j'ai jamais demandé à avoir
vous
un petit frère.
Vous avez mal compris, j'ai jamais demandé.
Je sais pas si Sacha et Lou Cazé comme ça, mais voilà, il y a beaucoup d'aînés qui sont pas forcément contents. Voilà. Donc, un papa et une maman qui font quoi, si c'est pas indiscret?
Alors, ce n'est pas indiscret, la maman était institutrice, elle a fait primaire et maternelle.
Oui.
Et le papa était professeur d'histoire géo en collège et professeur agrégé de français.
Très bien. Agrégé, ça veut dire qu'il pouvait enseigner au lycée ou en fac, non ?
Alors, je ne sais pas ce que donne l'agrégation, mais en tout cas, ça permet de donner un peu moins de cours.
Oui.
Peut-être d'être un peu plus pointu, je ne sais pas, mais en tout cas, ça permet d'être un peu plus, voilà, un peu plus calé.
Qu'est-ce que tu veux nous dire sur l'agrégation, Lydie ? Toi qui as été enseignante.
C'est pas évident, je crois que c'est vraiment un super niveau, quoi.
Oui.
Et viennent ensuite des frères et sœurs ?
Alors, un petit frère, oui. Un petit frère, il est arrivé quand j'avais 8 ans.
D'accord,
j'ai
c'est un bel écart.
8 ans de plénitude, oui.
8 ans de bonheur.
Oui, oui. Bah, d'autant que j'étais le premier de toute... ma mère avait des frères et des sœurs, et j'étais vraiment le tout premier, donc...
Choyé, adulé par les tontons et les tatas.
Ouais. Et ça a été compliqué quand le petit frère est arrivé, mais bon.
Tu t'en souviens, tu...
Ah oui, oui.
Ça a été compliqué, d'accord.
Ça a été compliqué pour moi, ça a mis 2-3 ans avant de...
Oui. Et puis, vous êtes resté à Melun, ou bien vous avez changé d'endroit ?
Alors non, je suis né à Melun, mais on n'habitait pas à Melun. On a habité un an en proche banlieue de Melun, et ensuite vers Provins, une ville médiévale très connue... au niveau de toute l'Europe pour justement cette cité médiévale. Et moi, j'ai vécu là et ça reste un souvenir incroyable.
Provins, c'est combien d'habitants ?
Oh, je dirais 12 000. C'est pas une grande ville.
C'est pas une grande ville, oui.
Ouais. Il y a beaucoup de monde lorsque les gens viennent voir la cité, mais sinon, non. C'est une petite ville de province.
D'accord. 12 000, c'est pas beaucoup. Hein.
Non, c'est pas beaucoup.
Si on prend Roubaix, 95 000... Mais Waterloo, Lydie
43 000, je crois.
42 000, oui, c'est ça. 42 000, c'est la taille d'Arras. C'est la taille de Montluçon, c'est ça.
Bon, revenons-en à nos moutons.
Ah oui, c'est Richard. Et donc, tu vas à l'école primaire.
Oui.
Ça se passe normalement.
Ça se passe très bien. J'ai même été dans la classe de ma maman en CE1. Donc, ça se passait très, très bien. Oui, oui.
Tu disais madame ou tu disais maman ? Non, alors, madame.
Je ne me souviens plus.
Madame maman.
Madame maman. Bonjour, madame.
Maîtresse,
maman.
Peut-être.
Ouais, maîtresse, oui.
Je ne me souviens plus, mais en tout cas, ça s'est très bien passé pour moi. C'était un peu plus compliqué pour elle parce qu'elle essayait de ne faire aucune différence entre les autres et moi.
Puis le collège ?
Le collège, à Provins aussi. 6e, 5e.
Oui.
Ouais.
Ça se passe bien.
Oui, ça s'est bien passé. Juste avant de rentrer au collège, mon papa est décédé. Donc,
c'était compliqué.
Ouais, au niveau de l'école, pas. Il n'y a pas eu vraiment de changement au niveau scolaire. à ce moment-là, mais en tout cas, ouais, ça a été compliqué.
La vie de la famille, c'est compliqué.
C'était ouais. très compliqué, ouais.
Ouais. Ah oui, quel choc pour un enfant de perdre son papa, quoi. Mm-hmm. Ouais. Collège, ça roule. Tu vas parler de 6e, 5e, parce qu'il se passe autre chose.
Ben, parce qu'après, on a déménagé, et donc on est allé en Sud-Seine-et-Marne, vers Montreux-Foltion. Ouais. C'est un peu en dessous de Fontainebleau.
Ah oui.
Et donc là, il y avait maman, beau-papa, petit frère.
Ah.
Et j'ai commencé à devenir extrêmement autonome pour ne plus être à la maison, en fait.
D'accord, d'accord. Dès donc 12, 13, 14 ans.
Oui, c'est
ouais,
ça.
Ouais. Et comment ça se manifeste d'être extrêmement autonome? Un peu révolté un peu...
Oui, on peut dire ça.
Oui,
ouais, ouais, révolté, pas forcément dans l'attitude, mais parfois dans les mots. Je pouvais être irrévérencieux, moqueur. Et puis, je passais mon temps à l'extérieur avec des copains, des activités sportives. Je restais le moins souvent possible à la maison.
D'accord. Oui. La maman qui se met en ménage ou qui se remarie avec ce qui sera un beau-père, l'attitude du beau-père est assez fondamentale, quoi. S'il essaye de se substituer au père qu'on a perdu, dont on a divorcé, ça ne fonctionne pas.
Ben, je ne sais pas. Je pense que ça dépend vraiment des enfants. Moi, j'attendais qu'il prenne sa place,
oui.
Et il ne l'a pas prise. J'aurais aimé qu'il soit un nouveau père.
D'accord.
Il ne l'a pas fait, il est resté à sa place. Il n'a pas pris de place, en fait.
D'accord, d'accord.
Ça
veut dire qu'il était de chez vous de passage ou...
Ben non, mais je pense qu'il y a eu erreur de casting. Ma maman a cherché un papa pour nous.
D'accord.
Elle n'a pas cherché un homme pour elle.
D'accord.
Et du coup, il n'a été bon ni pour elle ni pour nous. Donc, ça a été.
Et donc, ça a duré ou à un moment, le couple
s'est séparé? Ça a duré, oui, ça a duré trop longtemps.
D'accord.
Ça s'est fini, mais ça a duré presque 20 ans. Donc,
ouais. Alors, tes activités extérieures avec tes copains et. Activités sportives, disais-tu?
Oui, beaucoup de sport. J'aurais aimé aussi un peu de musique, mais personne dans ma famille n'en faisait, donc ça ne s'est pas fait. Mais des activités sportives beaucoup,
oui.
D'abord parce que j'aimais ça, pas spécialement doué, mais parce que ça me permettait de sortir, de faire autre chose, de voir d'autres personnes.
Oui, bien sûr.
Et puis ça a évolué vers plus de capacités sportives et physiques pour moi, et du coup ça a évolué. Mais
pourquoi cette attirance pour les activités sportives? T'aurais pu aller au bistrot, picoler, courir les filles ou je sais pas quoi, enfin, pourquoi le sport, quoi?
Alors les filles non, parce que moi à l'époque j'étais extrêmement timide, donc oui. Non. L'alcool non plus. Et puis non, ça s'est fait comme ça, les choses qui étaient à ma portée et accessibles étaient le sport, donc j'ai pris le sport.
D'accord.
Et en n'étant pas spécialement doué au départ pour ça, c'est finalement devenu ma vie parce que j'ai accroché, c'est devenu passionnant.
Alors quel sport ou quelles activités sportives tu faisais déjà là?
Oh, ben, j'ai commencé très jeune avec la natation et puis j'ai arrêté parce que c'était pas assez ludique pour moi.
D'accord.
J'ai vraiment besoin de m'amuser et ça a vite évolué vers le tennis. Pour deux choses. La première, c'est que c'est extrêmement ludique de jouer avec une balle et un partenaire.
Oui.
Et la deuxième chose, je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais voilà. Mon cerveau voit le tennis comme une partition de musique et c'est extrêmement beau à voir pour moi. Esthétique.
Tu analyses et tu décortiques au fur et à mesure que
Alors, pas tout de suite, ça, c'est venu après, mais ouais. Les actions techniques, toute la technique, c'était magnifique pour moi. C'était beau.
D'accord. Donc,
c'est intéressant cette vision-là.
Oui. Surtout tout jeune, on parlera après de son métier.
Oui, on va faire une petite pause d'abord.
Voilà.
Donc justement, Richard a proposé une chanson de Jean-Jacques Goldman qui s'appelle « Parler de ma vie ». Alors pourquoi ce choix, Richard?
Eh bien tout simplement parce que c'est la première musique que je me suis offerte. Je devais avoir 11 ans, je crois. J'étais chez mes grands-parents et... On m'a offert un peu d'argent et j'ai voulu acheter la musique. Et ça a été ma première, ouais.
D'accord. Et là, je voudrais juste faire observer que tu n'étais pas obligé d'acheter le disque puisque aujourd'hui, on parle de ta vie.
C'est vrai.
C'est bien comme chanson, comme choix de chanson. Ouais. On écoute ça.
Bien.
m'en suffira, y a pas grand chose à dire. Passé 30 ans et je sais, au moins j'imagine, je n'aurai jamais mon nom dans les magazines. Vois-tu, je suis de ceux que la foule rassure. On ne peut être rien que parmi des milliers. Has-been avant d'avoir été, c'est un peu dur. Ma vie, tout le monde aurait si bien pu s'en passer. Je te dis pas les peurs, les lueurs et les flammes. Je te dis pas le sang qui fait cogner le cœur. Je te dis pas ces moments si froids et si pâles et son visage. Penser que ces vies sont des vies vaines, mais le hasard invente et colorie parfois. Quand je pense à tout ça, ça me colle la migraine. Pourquoi vendre toujours quand il y a tant à donner? T'as beau m'expliquer que ça fait partie d'un système, il me faut bien des pilules pour l'avaler. Je te dis pas flamme. Je te dis pas le sang qui fait cogner le cœur. Je te dis pas ces moments si froids, si pâles et son visage. Je te dis pas le sang. Je te dis pas ces moments si froids, si pâles, son visage qui justifiait mes âmes.
Un petit coin de poésie. J'ai choisi le poème de Baudelaire qui s'appelle Le chat. Un petit clin d'œil à Sandrine qui doit nous écouter, on l'embrasse.
Qui est une passionnée de chats.
Et pas que de chats.
Et pas que de chats.
Le chat. Viens mon beau chat sur mon cœur amoureux. Retiens les griffes de ta patte et laisse-moi plonger dans tes beaux yeux mêlés de métal et d'agate. Lorsque mes doigts caressent à loisir ta tête et ton dos élastique, et que ma main s'enivre du plaisir de palper ton corps électrique, je vois ma femme en esprit, son regard comme le tien, aimable bête, profond et froid, coupe et fend comme un dard, et des pieds jusqu'à la tête, un air subtil, un dangereux parfum, nage autour de son corps brun. C'est chaud hein, quand même, non ? Et on écoute la version chantée par Georges Chelon. Et on embrasse Michel.
Viens mon beau chat sur mon cœur amoureux, retiens les griffes de ta patte et laisse-moi plonger dans tes beaux yeux mêlés de métal et d'agate. Lorsque mes doigts caressent à loisir ta tête et ton dos élastique, et que ma main s'enivre du plaisir de palper ton corps électrique, je vois ma femme en esprit, je vois ma femme. Je vois ma femme en esprit, je vois ma femme. Je vois ma femme en esprit, son regard comme le tien, aimable bête, profond et froid, coupé fend comme un dard, et des pieds jusque à la tête, un air subtil, un dangereux parfum. Nage autour de son corps brun. Un air subtil, un dangereux parfum. Nage autour de son corps brun. Viens mon beau chat sur mon cœur amoureux, retiens les griffes de ta patte et laisse-moi plonger dans tes beaux yeux mêlés de métal et d'agate. Je vois ma femme en esprit, je vois ma femme. Je vois ma femme en esprit, je vois ma femme.
Et on reprend l'entretien avec Richard.
Voilà, on retrouve Richard, donc, qui nous expliquait son adolescence, le collège, et puis tu es entré au lycée, j'imagine.
Eh oui.
Voilà, ça s'est passé...
Bah, comme une lettre à la poste.
Ah, tu as bien aimé.
Oui, j'ai bien aimé. J'avais un groupe d'amis, c'était une chouette vie, ouais, ouais.
On est toujours à Provins, là.
Non, on est à Fontainebleau.
Parce que vous habitez plus Provins ?
En fait, non, on a déménagé un peu en dessous de Fontainebleau, donc à Montreux-Foltiol.
Ah oui, tu l'as dit, oui.
Ouais, ouais. Et donc, la fin du collège et tout le lycée était là-bas.
D'accord.
Dans un lycée un peu qu'on qualifierait de craignos, mais nous, on y était bien et ça allait encore. Les années où j'y étais, ça allait encore, ouais.
D'accord. Tu es allé au lycée de quelle année ? À peu près, les années, on est dans les années 80, 90, je ne me rends pas
90,
compte.
90, ouais, 80. C'est ça, 90. D'accord. Début des années 90, ouais.
D'accord.
Ouais, j'ai dû sortir du lycée avec le bac en 94, quelque chose comme ça.
D'accord, tu as fait un bac qui était quoi ?
Bac scientifique, biologie, chimie, mathématiques.
D'accord, parce que ça allait bien, ça te plaisait
Bah parce que je me suis retrouvé là, il y avait de la lumière, je suis entré. Non, j'aurais pu faire un petit peu tout parce que j'étais bon dans toutes les matières. Peut-être que si mon papa avait été encore là, il m'aurait poussé un peu plus vers les matières encore un peu plus mathématiques, scientifiques. D'accord. Peut-être même vers médecine après.
Ah oui.
Mais comme j'étais livré à moi-même, je savais pas quoi faire.
Et ta maman te suivait pas trop sur le plan des études ?
Pas trop du tout.
Pas trop du tout, d'accord. Donc tu passes ce bac dans les années 90, on a dit, et tu choisis quelle voie ? Tu aurais pu aller, faire maths sup, maths spé avec tes Alors, facilités qu'on entend.
Après le bac, en fait, j'ai rien fait de spécial. Je savais pas quoi faire, donc du coup, j'ai rien fait.
Ah, c'est un choix plus facile.
Enfin, j'ai rien fait de scolaire.
Oui, oui.
Mais j'ai fait un an de tennis à fond.
Parce que là, c'était vraiment ton truc. Tu pensais que tu pensais déjà que tu en ferais un métier ?
Pas du tout. Pas du tout. C'était une passion et rien d'autre. J'étais libre, je venais de passer mon bac. Je me suis retrouvé dans rien d'autre à ce moment-là. Et puis, en fait, j'ai, à cet âge-là, à 18 ans, j'ai touché une partie de mon héritage, puisque mon papa étant décédé, j'ai touché une partie.
D'accord.
Et donc, je me suis servi d'une partie de cet héritage pour me payer des cours, pour progresser, pour faire de la compétition. Mes premières compétitions, quasiment, puisque... Quand j'étais plus jeune, ma mère ne m'emmenait pas vraiment en tournoi.
D'accord.
Donc, j'ai passé le permis, je me suis acheté une voiture, je me suis payé des cours, je me suis payé les tournois et j'ai commencé vraiment la vraie aventure.
Et tu sentais que ça te passionnait et que c'est vrai.
Ah oui, moi, c'était ma vie.
D'accord. C'est quoi l'attrait du tennis ?
Esthétisme, compétition et copains.
Esthétisme, je vois bien, compétition, je vois bien, et copains, je vois bien aussi. Ben ouais. on comprend ça. Ouais. Et donc, une première année comme ça, et après ?
Et après, beau papa a dit, ça suffit, tu fais rien, donc il va falloir que tu fasses quelque chose. Présente-toi à l'armée, et c'est parti, quoi.
D'accord.
Donc, j'ai devancé l'appel.
Il y avait encore le service militaire.
Oui, il y avait encore.
C'était juste limite.
Hein. Oui, c'est ça, c'était l'avant-dernière année, avant que ce soit supprimé. Moi, je n'étais pas contre, ça m'attirait un petit peu d'un point de vue sportif, physique, puis aventure. Le truc, c'est que je me souviens plus très bien, mais je crois que j'ai passé un examen, je sais pas quoi, et j'aurais dû intégrer normalement une école, une préparation militaire pour ensuite être officier. Et en devançant l'appel, rien du tout, je me suis retrouvé affecté au 57e régiment d'artillerie à Beach.
Ah, je connais très bien Beach.
Moi je connaissais pas, donc du coup je l'ai cherché au bord de la mer au début. Grande déception.
C'était pas la même orthographe.
Et je me suis retrouvé. quand j'ai décacheté l'enveloppe, j'ai vu Beach et je me suis dit ouais.
Ah, moi j'ai pris le dictionnaire, puis j'ai vu que c'était.
Et puis ensuite j'ai vu que c'était à 3 km de l'Allemagne et qu'on allait se peler et que ça allait être compliqué et ça a été compliqué.
C'est une très belle région, ceci dit.
C'est une très belle région.
Et ton 57e régiment d'artillerie est un peu en dehors de la ville.
Légèrement, oui.
Il y a un régiment dans la ville.
Oui.
Et puis il y a un régiment à côté et puis il y a le camp de Beach que tu as dû fréquenter.
C'est ça. Ouais. Ouais.
Alors, comment c'est ? On arrive là, on est militaire, on est accueilli très très aimablement par un petit caporal qui te gueule dessus. Et tout
non, ça. La première chose qu'on m'a dite en arrivant, c'est « Bienvenue dans le trou du cul du monde ». Donc ça a planté le décor et c'était tout à fait ça, c'est-à-dire qu'on est plus rien. Enfin, le but du jeu, c'est de mélanger les gens, de brasser toutes les religions, toutes les races, tous les métiers, toutes les origines.
Oui,
c'est vrai que pour ça, ça a marché.
On peut dire, de mon point de vue, je pense que tu partages, c'est quand même une très bonne chose, quoi, ce mélange social.
C'était très bien. Le lieutenant qui s'occupait de nous nous a bien cassé.
Oui.
Mais non, c'était chouette, c'était vraiment chouette. Et d'ailleurs, c'était chouette à un point où normalement, je devais faire 10 mois, puis j'ai rempilé et je me suis porté volontaire pour 2 ans.
Ah, très bien, très bien.
J'ai fini sous-officier.
Sergent.
Sergent, c'était maréchal des logis dans le régiment. Mais sergent, oui. Je dis parfois sergent.
Ceci dit, tu dis le lieutenant nous a un peu cassé, c'est ça que j'ai entendu.
Ouais.
Mais c'est fait exprès, non pas pour pour humilier. J'ai un fils militaire, comme tu le sais. Je dis, mais pourquoi il y a cette période qu'on appelle les classes, pourquoi c'est aussi rude ? Il dit, parce que quand on est dans une situation de combat, c'est très rude et donc il faut être prêt. Alors, c'est des appelés, on ne sait pas si, mais quand même, voilà. Donc, c'est le principe. Et je trouve que c'est pas absurde, quoi.
Oui, mais enfin, on a pu comparer avec d'autres parties du régiment qui étaient en classe avec d'autres lieutenants. Le nôtre était quand même. Compliqué, ouais. Mais sinon, je comprends le but des classes. C'est intéressant. Mais voilà, c'était qu'on arrête de réfléchir et qu'on obéisse, quoi.
On reprend. On fait une petite pause.
On refait une petite pause musicale.
Cette fois-ci, on revient avec Richard tout à l'heure.
D'accord. Il a choisi Queen, Bohemian Rhapsody. un super morceau.
Tout à fait.
Un peu long, mais on va écouter jusqu'au bout. Hein.
Ouais. Quasi 6 minutes.
Et ça a été, Queen, ça a été les premiers morceaux de musique rock qui m'ont fait découvrir une passion pour le rock. Ouais.
Ah ouais, on comprend. On écoute ça.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see.
I'm just a poor boy, I need no sympathy.
Because I'm easy come, easy go, little high.
Anyway the wind blows,
doesn't really matter.
Just gotta get out. Dans l'Est, un heure d'affluence. Un type dans les 26 ans, chapeau mou, avec cordon remplaçant le ruban. Coup trop long, comme si on lui avait tiré dessus. Les gens descendent. Le type en question s'irrite contre un voisin. Il lui reproche de le bousculer chaque fois qu'il passe quelqu'un. Tombe l'ornichard qui se veut méchant. Comme il voit une place libre, se précipite dessus. Deux heures plus tard, je le rencontre cours de Rome devant la gare Saint-Lazare. Il est avec un camarade qui lui dit : tu devrais faire mettre un bouton supplémentaire à ton par-dessus. Il lui montre où, à l'échancrure, et pourquoi.
J'ai choisi contrepétri. Je crois que Richard est sensible au contrepétri.
Oui, un peu, oui.
C'est pas le gars contrario, Richard.
Alors, je m'accroche, c'est pas facile. Hein. Un mour, vers Gidi, sur la falplorme hautière d'un arobus, je hie un vom au fou l'orcon et à l'entapeau chouré d'une tricelle fessée. Tout d'un, ce cible verpelle un intoisin qui lui parchait sur les miets. Puis, il pourut vers une vlasse pibre. Eux pleurent tudar, je le devis, revend la sarre lingazard, en craint d'étouter les donzelles d'un candy. Ah, j'ai réussi.
Tu peux pas lire pour Richard en deux minutes l'histoire originale.
Allez, pour Richard. Dans l'Est, à une heure d'affluence, un type, dans les 26 ans, chapeau mou, avec cordon remplaçant le ruban, cou trop long, comme si on lui avait tiré dessus. Les gens descendent. Le type en question s'irrite contre un voisin. Il lui reproche de le bousculer chaque fois qu'il passe quelqu'un. Tombe l'ornichard, qui se veut méchant. Comme il voit une place libre, se précipite dessus. Deux heures plus tard, je le rencontre, cours de Rome, devant la gare Saint-Lazare. Il est avec un camarade qui lui dit : tu devrais faire mettre un bouton supplémentaire à ton par-dessus. Il lui montre où et pourquoi. Mais là, aujourd'hui, dans les contrepétries, c'était un petit peu différent. Je vais vous le faire en version normale. Un jour, vers midi, sur la plateforme arrière d'un autobus, je vis un homme au cou fort long et au chapeau entouré d'une ficelle tressée. Soudain, ce type interpelle un voisin qui lui marchait sur les pieds. Puis il courut vers une place libre. Deux heures plus tard, je le revis devant la gare Saint-Lazare, en train d'écouter les conseils d'un dandy. Et voilà. Et on continue avec l'entretien.
Avec Richard, qui donc a eu son bac, on peut dire très facilement, qui s'est auto-payé une année de tennis à fond les manettes, ouais. Et puis qui est parti à l'armée, non pas à Metz, comme l'artilleur de Metz, mais à Beach. 10 mois qui t'ont plu et tu t'es rengagé, si je puis dire, pour devenir finalement sous-officier.
Pas engagé, hein. J'étais pas militaire de profession, mais je suis resté 2 ans au lieu de 10 mois. Ouais.
Ça t'a plu, et puis arrivé au bout.
Oui, c'était sympa, j'ai hésité, je me suis dit est-ce que je continue vraiment, est-ce que je m'engage vraiment ou pas. Et puis je me suis dit non, ça va pas aller avec mon caractère, j'ai besoin quand même de réfléchir par moi-même, et ça n'allait pas...
Le cadre est trop serré.
Oui, et puis il y a des types très intéressants, hein, qui sont militaires et qui travaillent là-bas, et puis d'autres très cons comme partout. C'était surtout le fait que j'ai besoin de réfléchir et que donc en fait ça n'irait pas si on me donne un ordre. Moi j'ai besoin de l'analyser avant. Donc,
c'est ça. Ça peut, pourquoi
ça, voilà. Ça va pas du tout avec la fonction, quoi.
Il y a des cons partout, et donc je me pose la question, dans l'émission Un petit coin de paradis, où est-il? Excuse-moi.
Insolent.
Donc tu quittes l'armée.
Oui.
Tu reviens au tennis.
Je reviens au tennis.
Sous quelle forme?
J'avais quand même pas mal perdu en revenant de l'armée, parce que j'ai quasiment pas joué pendant 2 ans.
Ah, oui, oui.
Par contre, la condition physique étant extrêmement bonne, c'est revenu quand même assez vite.
D'accord.
Et voilà, et donc je me suis payé
des tournois, etc.
Ouais, et j'ai enchaîné les tournois, et j'en ai fait beaucoup, beaucoup. Et à la fin de cette année de travail à l'usine, je me suis retrouvé...
Alors, non, tu as pas parlé de la... On en a parlé hors micro de ton travail à l'usine.
Oui, j'ai bossé à l'usine en 3-8 pour me payer justement.
Quel genre d'usine et de travail ?
Alors principalement, j'étais intérimaire, donc j'ai fait plusieurs usines, mais vraiment principalement l'usine de Montreux qui s'appelait la Silec à l'époque. Et c'était juste enrouler des câbles électriques en fait sur des grosses bobines.
D'accord.
Et on peut encore voir le mot Silec sur un certain nombre de feux rouges en fait en France.
Ah oui, oui. Ils sont mis à fabriquer des...
Oui, c'était l'entreprise qui faisait ça, oui.
D'accord.
Et à la fin de cette année-là, je me suis retrouvé, à ma grande surprise, avec le classement C'était vraiment inattendu, le classement nécessaire, minimum, pour pouvoir passer le diplôme d'entraîneur.
Au tennis, attends, je voudrais qu'on revienne sur ton année d'usine.
Oui.
Quel ressenti tu as éprouvé? Ennuyeux, intéressant?
Extrêmement ennuyeux.
Oui.
Moi, j'ai trouvé ça un petit peu amusant par moment, parce que, notamment la nuit, parce que les patrons ne sont pas là et que donc tu peux gérer, tu as un quota à faire, tu peux gérer. Et moi, je me suis amusé à réorganiser totalement mon poste de travail et me débrouiller pour que le quota soit atteint le plus vite possible,
oui,
en rendant tous mes gestes efficients. Ça m'a vraiment amusé.
Ah oui.
Et du coup, on devait faire 7 heures de boulot et je pense que j'avais fini au bout de 5, quoi.
C'est ça.
Voilà.
C'est ça. Je pense que tu aurais pu faire une carrière d'ingénieur. J'ai l'exemple d'une ouvrière dans une entreprise textile où il y avait un surcroît de rémunération en fonction de la quantité de travail que tu fournissais. La contre-dame, parce que dans le Nord, on ne dit pas contre-maîtresse, on dit contre-dame.
Je ne suis pas contre les maîtresses. Hein.
Voilà. Disait, regardez monsieur, cette ouvrière-là, en fait, elle travaille 3 jours sur les 5. Elle travaille très efficacement, très rapidement. Et les 2 autres jours, elle se met en veilleuse, quoi, en roue libre. Et puis, elle finit sa semaine tranquillement, quoi. Je trouvais que c'était d'une intelligence.
Oui. Ouais.
Donc, l'usine est finie et tu es très bien classé au tennis.
Oui, enfin, suffisamment pour pouvoir postuler à l'examen d'entraîneur.
Ah, d'accord.
Ouais. Voilà. Et j'ai vu une annonce dans le journal pour le club d'Auxerre, qui cherchait des étudiants entraîneurs pour passer le diplôme là-bas. Et je me suis pointé.
Oui.
Et ils m'ont pris tout de suite, parce que moi, j'avais déjà passé le bac et j'avais passé un bac scientifique, et notamment biologie, et c'était le niveau demandé. Et donc, ça les arrangeait que la moitié du boulot soit fait.
Très bien.
Et j'ai été pris.
C'était quoi l'intérêt du club pour monter cette formation ou...
Eh bien, les stagiaires, ouais, on était 3, payaient en partie le maître de stage pour des cours de tennis en plus de la formation théorique pour passer le diplôme. Et donc lui, il s'est retrouvé puisque ça lui faisait une manne financière supplémentaire par rapport à son boulot. Et tout ça s'est bien passé. C'était vraiment chouette. C'est une super période pour moi.
Et donc, tu te retrouves diplômé en fin d'année ?
Oui, je me suis retrouvé diplômé donc au bout de 2 ans, parce que c'était 2 ans, une année sur le théorique et ensuite une année sur le pratique avec le tennis. Et donc au bout des 2 ans, donc je m'étais fait embaucher sur un petit club à côté d'Auxerre, et le patron du club m'avait dit chouette, t'as eu ton diplôme, on va pouvoir t'augmenter. Et je me suis dit chouette, je vais être payé comme les copains, et en fait non, il a voulu
financer.
Ouais, et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit il n'y avait pas de raison que je sois payé moins que les copains, et donc je lui ai dit je veux être payé comme les autres, et il m'a dit non. Je dis ok, moi je m'en vais.
Très bien.
Et au moment où je disais je m'en vais, j'avais pas de solution de repli. D'accord. Mais dans les jours qui ont suivi, j'ai eu de la chance. Un copain d'Auxerre qui m'a dit il cherche à Montbard.
Oui.
Montbard se trouvant entre Auxerre et Dijon. Je ne connaissais pas du tout.
C'est là, Montbard, près de l'abbaye de Fontevraud.
Fontenay.
Ouais,
l'abbaye de Fontenay.
Il y a une gare TGV.
Il y a une gare TGV. Ouais, ouais.
C'est quand même très loin d'Auxerre, non ?
D'Auxerre. 80 km.
Ah oui.
C'est pile entre Auxerre et Dijon, vraiment.
D'accord.
Et donc, je suis arrivé là-bas et c'était vraiment le début d'une grande aventure. Ouais.
D'accord.
Super. Petite pause encore.
Je te le demande.
Et cette fois-ci, c'est une chanson qui s'intitule Qu'est-ce qu'on y peut, de Pierre Lapointe et Clara Luciani.
Oui, ça résume bien ma nouvelle vie.
Oh, c'est beau. On écoute ça.
Reste là, ne bouge pas, le temps que la beauté se fige, le temps d'apaiser les vertiges que nos corps nous infligent.
Dans la moiteur de la chambre, dans le silence de l'abandon, essayer de se persuader que ce n'était pas si bon.
Grande, grande.
fragile que personne ne regarde.
Que l'amour dure une vie, qu'il meure à la fin de la nuit. Ce soir tu seras mon trésor, l'extension de mon corps. J'oublie qu'un jour on aura mal. Je me fous d'hier, de demain.
Ancho Juan Parisi. C'est à Laurent.
Eh bien, chers amis, dans le cadre de notre chronique culturelle langagière indigène, je vais maintenant vous lire un poème intitulé Le Cookback. Un fébonchir, un mangin du craquelin, un quartier de flan ou un bon gros boudinque, de le tartaprone et des coucarogins. Mais ce qu'un préfère, même sans être berlafeu, car tchankinda, personne qui reste un rack, ce qui plaît tout dit et qui vous rend heureux, chez chacun appelle un cookback. Pour les non-natifs, c'est une crêpe. Tchant qu'on est jeune, un va tout près du feu pour vir monter dans le Séoul des mélaches, un atertus, une main de rue tout jus. Tchant que le mamère, elle se met à l'ouvrage pour les vir faire un ouvert bain ses yeux, et je vous assure, c'est un beau spectacle. Pour d'avoir un avec gramin de chou gris indi, c'est pour mi, je le cookback. Faire une cookback, un pince que je n'ai mis rien. Et mi, je connais par ici un ménage, d'où que l'homme dit jo, un feujon Saint-Malin, donne mille paillelles, je vais en faire une à de plage. Pour les retourner, je vais l'enchir au plafond, et je le recevrai comme une boule sur les tacs. Mais elle a tché dans un bac au carbone. Il n'a pas su faire une cookback. Une bonne cookback, chapelée même aux villes-jeunes, hein, les veaux rire et leur tête, elle baloche. Il y en veut encore, malgré qu'ils n'ont plus de dents. Il faut les vir faire aller le galoche. Autour de le taf, ils prennent du plaisir. Tout indigent, même si chalet des tracts, bah, pour un faux, eh bé, mon dit, que j'ai bon de manger une cookback.
C'est extrait du livre Évocation roubaisienne. De qui, Laurent?
De Charles-Édouard Baudard Timal.
Baudard Timal, oui.
Je ne sais pas s'il s'appelle Charles-Édouard.
Merci, Laurent. Et on continue l'entretien avec Richard. Ses passions.
Dans la foulée.
Allez, on y va, mais pas en ch'ti, s'il te plaît.
On en revient à Richard, qui donc quitte le club qu'il avait abrité et qui lui avait promis une bonne situation financière et trouve un autre emploi dans le club d'Auxerre, où tu avais fait ta formation dans un autre club.
J'ai trouvé un nouvel emploi à Montbard.
À Montbard.
Ouais.
Et donc, qu'est-ce qui se passe-t-il à Montbard?
Et donc, eh bien, je commence mon métier. On est en décembre 2001 et je pense que quelques mois plus tard, rencontre la femme qui va devenir la mère de mes enfants.
Très bien.
Et ouais, c'est le début d'une chouette histoire.
À mon bar.
À mon bar, ouais.
D'accord.
Ouais. Et je développe ce club et ça se passe très très bien. Et voilà, ça a duré quand même 16 ans.
Ah, 16 ans, ouais, 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 16 ans. Tu connais bien la région ?
Oui, bah, je la connais bien maintenant.
D'accord.
Ouais, ouais.
Et puis, nous t'avons nous rencontré dans le Nord.
Oui.
Voilà, parce qu'il y a eu des changements.
Ben oui, parce que la mère de mes enfants étant flamande, à un moment donné, ça l'a taraudé de remonter. Donc on est reparti en Belgique.
Oui.
Puis en Belgique, ben, ça n'allait plus et donc on s'est séparés et je suis devenu célibataire.
Et tu as trouvé un emploi en Belgique ?
Et j'ai trouvé un emploi dans plusieurs clubs, mais le principal, c'est quand même près de Courtrai, à Zwevegem.
Oui.
Où là, je donne beaucoup d'heures de cours et ça se passe bien. On est plusieurs entraîneurs, l'entente est bonne et ouais, ça se passe vraiment bien. Et j'ai appris à parler en néerlandais pour pouvoir donner mes cours là-bas. Ouais.
Ah, super. Ouais. C'est pas facile. Tu avais fait allemand à l'école ? Non.
J'avais fait allemand, mais ça n'aide pas beaucoup.
Il y a quand même des petites sonorités allemandes. Non,
ben, je sais pas. Moi, l'allemand, je trouvais ça relativement facile. Ouais. Le néerlandais, pas trop.
D'accord.
Mais bon, il a fallu que je m'y mette.
Donc là, maintenant, tu vis à Roubaix, tu travailles à Zwevegem.
Oui.
La vie avance normalement.
Oui.
Tu as quel âge ? Plus de 45 maintenant.
Oui, j'ai 46, oui.
Est-ce qu'on peut être prof de tennis jusqu'à 77 ans ? Oui.
Ah, je pense que oui. Certains le font, d'autres pas.
D'accord.
Je pense que c'est très personnel et effectivement, la condition physique entre en jeu dans son choix.
Naturellement.
Mais on peut. Simplement, l'approche n'est, à mon sens, pas la même.
Bien sûr.
Qu'on a plus un œil extérieur, des conseils... Et en général, les jeunes, ils jouent plus avec les élèves et ils envoient plus les balles. Voilà, c'est...
D'accord.
Ça change un tout petit peu, mais pas tant que ça.
Richard, quelle passion, quel projet dans le futur de ta vie ? Tu es même pas à la moitié de ta vie.
J'espère. En tout cas, une passion qui est là depuis le départ, c'est la musique.
Oui.
Le tennis. Ça a été une passion avant de devenir mon métier et ça l'est toujours. Et puis, je dirais la psychologie maintenant, peut-être, même si ça a toujours fait partie de mon métier au tennis, puisque
bien sûr.
Y a une espèce de préparation mentale hein, pour les joueurs de tennis. Mais je sais que la partie psychologie m'intéresse de plus en plus. Et en tant que projet, j'ai commencé à travailler à l'université de Lille pour encadrer certaines formations au niveau de la préparation mentale, et qui n'a rien à voir avec le tennis, et c'est passionnant.
Et alors, tu as découvert que tu avais un talent dans ce domaine-là, ou tu le sentais, tu le savais ?
Alors, talent, j'en sais rien, mais en tout cas, on va dire un autre point de vue, puisque moi, je viens du sport, et je sais qu'au niveau du sport, on est allé quand même assez loin en termes de préparation mentale, et bizarrement, dans d'autres métiers, il n'y a rien, en fait. Et donc, en transposant ce que je connais du monde du sport, eh ben, je m'aperçois que ça marche très, très bien avec
d'autres,
toutes, toutes. La gestion des émotions, du stress, le fait de relativiser, de ramener ça à soi, ça permet de voir les choses autrement.
Je trouve que c'est assez essentiel, et tu as raison, il y a très peu d'activités, notamment d'activités de formation, où il y a un travail sur la préparation, comment tu l'as appelé, mentale.
Préparation mentale, oui.
Préparation mentale, oui. Alors que ça me paraît premier, quoi.
Oui, moi ça me paraît évident, et il n'y a vraiment rien, à l'université, pour toutes les formations, il n'y a pas ou très peu. Je sais que la personne qui était avant moi s'occupait de sophrologie, de relaxation, et ça parlait pas du tout aux étudiants. Ils avaient besoin vraiment de qu'on parle, en fait. Ils avaient besoin de parler, pas de se calmer ou...
Ils avaient besoin de s'exprimer.
Et d'entendre d'autres points de vue et de parler des émotions, en fait.
Et peut-être moins de recevoir, entre guillemets, un enseignement sur la sophrologie ou la psychologie ou je sais pas quoi.
Ça peut être un complément, mais ça règle vraiment pas le fond.
Dans quel sens tu pourrais développer cette activité qui a l'air de te passionner ? Tu pourrais t'engager plus ?
Eh bien, je vais... ça a bien marché, mais je vais envoyer mon CV pour pouvoir... travailler dans d'autres filières, parce que pour l'instant je travaille que dans une seule, mais je pense que toutes mériteraient d'avoir accès à ça. Ouais, ça me paraît primordial.
Moi, j'ai travaillé plus d'une quinzaine d'années dans ce qu'on appelle improprement une école de commerce, qui est en fait une école de gestion d'entreprise. Et si il y a vaguement quelque chose qui peut évoquer cette préparation mentale. Je pense qu'il n'y a rien de très abouti ni de très profond. Et ce serait peut-être un bon terreau, quoi, de... Voilà.
Ah bah oui, je pense que, ouais. Mais je pense que la plupart des grandes entreprises devraient s'y intéresser, ouais.
Oui.
Ça ouais. permettrait un bien-être...
bien meilleur.
Les... Ouais, oui, bien sûr.
Et alors, pour le dire de façon terre-à-terre, peut-être ça améliorerait l'efficacité des gens au travail, quoi, en plus de leur bien-être. Enfin, ça me paraît lié. Quoi.
Alors, je ne suis pas d'accord avec toi, tu as dit peut-être, il faut l'enlever, c'est certain.
C'est sûr, tu dis c'est sûr, oui. Ouais. D'accord. C'est ça ne voulait pas être affirmatif. Quoi.
Dans la musique, le nombre de personnes qui échouent à cause du trac, par exemple. J'imagine que c'est un,
oui, bien sûr,
quelque
aussi.
Chose qu'on peut travailler aussi.
Oui, on peut toujours le travailler. Ouais. Voilà. Toujours.
Comment tu as surmonté ton trac, toi, Lydie, en musique, en chanson, progressivement?
Je n'ai pas encore surmonté.
D'accord.
Mais là, je peux dire que nous allons devoir nous arrêter, Laurent.
Eh bien, on remercie infiniment Richard d'avoir accepté
ça a été un plaisir.
Venir nous rendre visite.
Merci à ces charmants fils qui ont été adorables et on est content de les avoir eus avec nous. Absolument. Et un jour, on les interviewera.
Voilà.
Voilà, on va s'arrêter là.
Merci beaucoup.
Au revoir, chers auditeurs, et puis à une prochaine fois.
À bientôt, au revoir à terre tous.
Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute, le matin même à un ami. Courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri. En séchant l'eau de sa frimousse, d'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardis.